I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. De temps en temps, dans nos vies journalistiques, on se retrouve soudainement à croiser la route d'univers qui nous sont totalement étrangers et qui pourtant réunissent des dizaines, voire des centaines de milliers ou des millions d'adeptes. À l'étrange sensation d'être un extraterrestre débarquant sur des terres inconnues s'ajoute alors la troublante impression d'avoir une bonne dizaine de wagons de retard sur le reste de la planète. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques semaines lorsque j'ai vu passer sur mon fil d'actu des articles racontant en détail une affaire totalement ahurissante, l'affaire du Burning Sun, un scandale mêlant drogue, agression sexuelle et corruption et qui éclabousse le monde de la K-pop, la pop sud-coréenne, à laquelle personnellement je ne m'étais jamais intéressé ni de près ni de loin. Alors histoire de ne pas mourir idiot, nous avons décidé de consacrer à cette histoire notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Évidemment, en bonne ignare absolue en matière de K-pop, il fallait pour m'accompagner quelqu'un qui maîtrise le dossier à la perfection. Je n'ai pas eu à chercher cette experte bien loin, puisqu'il se trouve que ma camarade journaliste Mélanie Manga, que vous connaissez bien, si vous suivez régulièrement Programme B, est une fine connaisseuse de cet univers. C'est d'ailleurs elle qui, la première, m'a alerté sur cette affaire de Burning Sun. Alors, histoire de démarrer notre discussion sur de bonnes bases, j'ai demandé à Mélanie de m'expliquer concrètement ce qu'est la K-pop.
La K-pop, c'est la pop coréenne. Donc c'est un genre, on peut dire un courant musical qui est né en Corée du Sud depuis plusieurs décennies déjà. On peut dire que la K-pop, ça regroupe plusieurs genres musicaux. Donc on a la K-pop pop, à tendance hip-hop, à tendance électro. C'est un peu un mélange de toutes les influences américaines qu'il y a dans le top 50. Mélanger un peu à la culture vraiment coréenne.
Ouais, c'est une relecture, on va dire, de la pop musique très spécifique à la Corée. Et c'est un carton énorme, d'ailleurs, qui dépasse largement les limites de la Corée du Sud. Oppan Gangnam Style.
L'exemple qu'on cite souvent quand on parle de K-pop, c'est Gangnam Style, la chanson de 2012 qui a été pendant très longtemps la vidéo la plus vue sur YouTube, qui a été un énorme carton international, sachant que c'est, on va dire, la partie émergée de l'iceberg. Hein, c'est un tout petit truc Gangnam Style, mais effectivement, la K-pop, c'est un phénomène qui dépasse les frontières de la Corée du Sud. Déjà en Asie, dans l'Asie globale, c'est un succès monstre, à tel point que certains pays comme la Chine et le Japon ont dit « attention, on va arrêter d'inviter un peu des musiciens de K-pop, de groupes de K-pop dans nos médias parce que ça a trop de succès par rapport à nos groupes à nous.
»
Et ça a un succès même qui dépasse aussi les frontières de l'Asie, notamment en Europe. Très grosse communauté de K-pop, de fans de K-pop en Allemagne, en France notamment, et aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, avec la communauté asiatique américaine. Et il y a vraiment quelque chose dans la K-pop qui différencie le genre de ce qui se fait aux États-Unis.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est beaucoup plus bonbon, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus, de travail au niveau du visuel, au niveau de la communication des artistes. Il y a vraiment quelque chose de différent qu'on voit nulle part ailleurs, en fait.
Il y a une des spécificités, justement, puisqu'on en parle, de la K-pop, c'est aussi dans la manière dont c'est organisé, quelque part, parce que c'est une vraie... Il y a une fabrication quasi industrielle, on va dire, de la K-pop, notamment dans la composition des groupes, la manière dont sont recrutés les chanteurs. Ça commence d'ailleurs super tôt, ça, je crois, dès la préadolescence quasiment.
Oui, c'est le système du training, en fait, qui est en place. Donc, c'est des agences. Il y a plusieurs agences de musique qui officient en Corée, qui vont recruter des jeunes gens Ça peut aller très très tôt, hein. Ça peut être à 10-11 ans. Généralement, c'est plutôt autour de 15-16 ans. Donc, ils vont recruter ces jeunes gens, ils vont leur faire signer des contrats et pendant plusieurs années, ils vont les entraîner à devenir des stars. Donc, les personnes vont vivre dans des dortoirs et vont avoir des cours de chant, de danse, de parole, de prise de parole en public, de composition. Voilà, on va vraiment les former à devenir, en fait, à les former à ce métier, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces personnes-là sont endettées par rapport à leur agence, parce que l'agence paye pour tout.
Ouais, ils investissent sur
voilà,
eux.
Voilà, ils font un investissement
donc
sur l'avenir.
Ils attendent un retour sur investissement.
Tout à fait. Et donc pendant ces années-là, souvent les trainees ne sont pas payées, ou alors très peu. Elles sont nourries, logées, mais elles doivent suivre un emploi du temps militaire pour vraiment être formées. Et il est attendu qu'après, à l'issue de cette formation, elles remboursent leur agence. Donc elles ont intérêt à avoir du succès, parce que sinon elles sont endettées à vie.
Et du coup, c'est dans ce processus-là qu'après sont formés les groupes, parce que donc c'est la K-pop, si j'ai bien compris, hein, parce que je suis naïf dans cette histoire. La K-pop, c'est surtout des groupes, donc voilà, c'est pas forcément des artistes uniques, mais c'est plutôt des collectifs d'artistes, mais qui sont pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a même zéro storytelling sur genre, on s'est rencontrés au lycée,
non.
On a construit le groupe. Alors, c'est genre vraiment, toi tu fais ça. Toi,
le
tu
storytelling
fais ça.
Qu'il peut y avoir, c'est on était dans la même agence et on est devenus copains,
voilà.
Quoi.
C'est la limite du truc.
Mais effectivement, la K-pop, les plus gros artistes, en fait, c'est des groupes. Il y a quelques artistes indépendants,
solo,
qui ont un succès. Mais c'est très difficile parce que, en fait, ce qui marche bien dans les groupes, c'est qu'on peut attirer plusieurs types de fans parce qu'on a, par exemple, dans un groupe de garçons, on va avoir un rappeur un peu bad boy, on va avoir un chanteur un peu romantique.
Il y a des typologies comme
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Il y a toi, t'es le visual. Donc, le visual, c'est celui qui est mignon, mais qui n'est pas forcément très bon danseur ou très bon chanteur, mais il est quand même là parce qu'il est mignon, quoi. Donc, du coup, il y a vraiment cette espèce de variété qu'on essaye de mettre dans un groupe. On aura un très bon danseur, très bon chanteur, très bon rappeur, un compositeur, et puis le groupe en lui-même sera global et complet. Alors que être seul, c'est plus difficile.
Avoir,
ça veut dire qu'il faut vraiment avoir du talent.
C'est
quoi.
La licorne. Quoi. Il faut regrouper tous les...
C'est une exception.
Voilà, c'est ça, c'est une exception. Du coup, ça s'accompagne quand même, cette organisation, cette manière de présenter les choses, de produire les choses, d'un certain nombre de travers. On a parlé notamment du fait qu'ils sont endettés et que donc ils sont dans une forme de, pas d'esclavagisme, on va dire, mais
on
de,
n'est pas loin.
Voilà, mais de, en tout cas d'asservissement assez fort vis-à-vis des agences. Il y a aussi beaucoup de clauses dans leurs contrats, de limitations qui peuvent parfois faire un peu flipper.
Ouais, alors en fait, c'est aussi un des attraits de la K-pop pour le public, c'est-à-dire que, comment expliquer, mais culturellement, c'est très différent de ce qui se fait en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'une des clauses que peuvent avoir les trainees et même les stars dans leur contrat est de ne pas avoir de petit ami en public.
Oui.
On ne doit pas savoir que la personne a une relation amoureuse ou pas.
Il faut apparaître comme célibataire.
Exactement.
Ou
et d'ailleurs,
comme disponible, en tout cas.
Tout à fait. Il y a énormément de dating scandales. Ce qu'on appelle des dating scandales, c'est quand on apprend que, oh mon Dieu, tel chanteur sort avec telle petite amie. Quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, effectivement, et ça peut mettre foutre en l'air les carrières des gens, parce que c'est très mal vu.
Et ça peut aussi créer, on va dire, avoir des effets secondaires psychologiques sur les trainees et sur les idoles. Après, parce qu'on les appelle les idoles, en plus, on ne l'a pas dit, ça veut déjà tout dire, avec des cas donc, de suicide, des gens qui pètent complètement des plombs.
En fait, il y a déjà eu beaucoup de scandales dans la K-pop parce que, effectivement, le rythme de travail d'une idole, on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit le côté glamour, on voit les concerts, on voit les paillettes, mais il y a énormément d'idoles qui sont en dépression. Il y en a beaucoup, notamment chez les filles, qui souffrent de troubles alimentaires avec la pression de toujours être mince,
parce
de toujours.
On exige aussi ça d'eux.
Tout à fait. Il y a aussi, effectivement, il y a eu le cas d'un jeune homme qui s'est suicidé dernièrement, il y a quelques années, et qui faisait partie du groupe Shiny. La pression psychologique, en fait, d'être très célèbre et en même temps prisonnier. Il y a aussi le cas des fans hardcore, donc en coréen, c'est les saseng. C'est les fans qui, en fait, suivent leur idol jour et nuit, qui vont la voir à l'aéroport, qui campent devant chez elle pour prendre des photos, qui lui envoient des cadeaux. Enfin, il y a toute une culture, en fait, autour des idoles qui est assez toxique.
Et justement, si on arrive au toxique du toxique, on va dire, et donc à l'affaire Burning Sun, c'est d'autant plus frappant cette affaire que justement, on l'a un peu dit, la K-pop est, on va dire, nimbée d'une espèce d'aura un peu bisounours, très, on va dire, très douce, très, comme ça, glamour, gentille, mignonne. Il n'y a pas trop de côté, justement, bad boy.
On parle
punk,
pas trop de sexualité, voilà, ouvertement
c'est
dans les chansons.
C'est assez asexué, c'est assez doux, c'est très romantique et tout ça. Donc là, Burning Sun, ça ne l'est pas du tout. C'est quoi les origines de cette histoire ?
Alors, l'affaire Burning Sun, c'est sorti au début de l'année 2019 et ça implique l'un des membres d'un des plus grands groupes de K-pop de tous les temps, qui s'appelle Big Bang, qui est un énorme groupe. Enfin, c'est 5 personnes, mais en termes de vente et d'impact sur la société coréenne, Big Bang, c'est énorme. C'était le groupe de la fin des années 2000 et des années 2010. Et ça implique donc un des membres qui s'appelle Seungri. Donc Big Bang, ça représente 140 millions d'albums vendus à travers le monde depuis 2006.
Oui, c'est
donc
énorme,
c'est
ouais.
vraiment quelque chose. Donc Seungri, il a 28 ans et il est accusé d'avoir organisé dans une boîte de nuit de Séoul, le Burning Sun, donc c'est une boîte de nuit qui est co-gérée, un trafic de drogue et d'avoir fourni notamment des services de prostitution à des personnalités.
Comment est-ce que l'affaire est sortie dans la presse ?
Alors, l'affaire est sortie à partir d'une pétition. Un homme qui s'appelle Kim Sang-kyo a sorti donc cette pétition en disant « Je me suis fait agresser et fait tabasser par le personnel du Burning Sun,
de cette boîte,
alors que j'essayais d'aider une jeune femme qui était en train d'être agressée sexuellement. » Elle était droguée et on était en train de l'agresser. J'ai voulu la défendre. Ouais. Le staff est arrivé, m'a tabassé et m'a sorti.
Foutu dehors. Ouais.
Voilà. Donc il a raconté ça et il a mis une pétition en ligne, appelant à une enquête, en disant c'est scandaleux. Les gens de cette boîte, notamment le staff, sont protégés par la police du district et la police ne fait rien. Il y a tous les jours des femmes qui se font agresser sexuellement dans cette boîte.
Et du coup, ce témoin, ce lanceur d'alerte, on va dire Kim Sang-kyo, il s'est retrouvé lui. Arrêté, accusé d'agression, accusé de diffamation et d'obstruction à la police, mais il avait quand même pour lui, dans sa pétition, d'apporter des preuves de ce qu'il disait, notamment des vidéos, je crois.
Tout à fait, des vidéos de surveillance, donc ce qu'on appelle CCTV, où on le voyait déjà se faire tabasser, parce que en fait, la version officielle, c'était que c'était lui qui avait
agressé des gens
et qu'on l'avait sorti. Là, on le voyait se faire tabasser, on voyait bien qu'il avait agressé personne, et on voit aussi la vidéo de la jeune femme se faire traîner, dans une allée du club.
Et du coup, là, c'est à partir de ce moment-là que l'affaire éclate. C'est quoi c'est quoi le déroulé de cette affaire ? Qu'est-ce qui se met en branle à partir de janvier, justement ?
Voilà, alors, donc, à partir de janvier, à partir de cette pétition, et notamment des preuves, il y a tout un jeu qui se met en place de témoins qui disent « Non, c'est pas vrai, moi, j'étais là-bas, mais je suis une cliente, je n'ai jamais rien vu. » Et en fait, il s'avère que ces personnes-là ont des contacts avec le staff du Burning Sun. Donc, du coup, on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. La police ouvre une enquête parce que la pétition atteint 200 000 signatures. C'est un peu sur le modèle de Barack Obama, ce qu'il avait mis en place à la Maison Blanche.
Avec une obligation de répondre à partir d'un certain seuil.
Tout à fait. Donc là, 200 000 signatures, la police ouvre une enquête. Et effectivement, on entend des témoins, on analyse les vidéos. Il y a une perquisition qui a lieu au Burning Sun et au commissariat du district qui était en fait appelé dès qu'il y avait un problème
dans le club.
Et donc on récupère les vidéos de surveillance, les caméras des policiers qui portent quand ils sont sur le terrain et d'autres documents. Et du coup, à partir de là, on commence à découvrir la vérité sur les agissements qui ont lieu dans ce club, qui sont très 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 graves.
Et justement, alors qu'est-ce qu'on découvre et qu'est-ce qui apparaît au grand jour à ce moment-là ?
Eh ben, il apparaît notamment un trafic de drogue, alors qu'en Corée du Sud, la drogue c'est très très très
sévèrement réprimé par la loi.
Exactement. Donc là, trafic de drogue, tout un système en fait de recrutement des jeunes femmes dans le En fait, il y a ce qu'on appelle les merchandisers, c'est-à-dire que c'est des personnes du staff du Burning Sun qui sont chargées d'aller chercher des clientes. Donc, ils vont recruter des clientes, les faire venir, et recruter aussi des clients en leur disant « venez, venez, venez ». Et notamment, fournir en drogue ces clients-là, afin qu'ils puissent droguer les jeunes femmes. Donc, il y a du GHB qui circule dans la boîte et il y a énormément de clientes qui se font droguer et qui sont ensuite agressées sexuellement. Donc, on a les deux. On a à la fois le trafic de drogue et on a les agressions sexuelles et les viols.
Et on découvre aussi, au passage, un des volets de cette affaire Burning Sun. C'est tout un réseau, on va dire, de discussions entre les différents membres de différents groupes de K-pop, notamment donc le fameux Seungri dont on parlait tout à l'heure.
Ouais. Alors ça, c'est vraiment l'aspect qui a le plus fait parler dans les médias, parce que ça a mis en cause toute une constellation d'artistes qui avaient une image cool, mais en même temps assez innocente. Il y avait des petites jeunes qui étaient fans d'eux depuis très longtemps. Et en fait, on découvre que ces mecs-là sont dans des groupes privés, donc des groupes privés où on s'envoie des messages textes et photos sur l'application KakaoTalk, qui est un peu l'équivalent de WhatsApp en Asie et en Corée du Sud notamment. Donc en fait, on a retrouvé ces messages qui ont été donnés non pas à la police mais à la commission anticorruption, car dans ces messages-là, ça apparaissait qu'en fait ils avaient des liens avec la police et que la police les couvrait.
D'accord, oui, qu'il y avait des échanges d'argent pour couvrir certains trucs.
Donc du coup, dans ces messages qui remontent jusqu'à 2015, on peut déjà voir que Seungri, il semblerait qu'il ait ordonné au staff du Burning Sun de mettre en relation des clients étrangers avec des prostituées.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà vraiment du trafic. Et en fait, ces mecs-là, ils ont entre 25 et 30 ans à peu près. Et ils s'adonnent à ce qu'on appelle le molka. Donc le molka, c'est prendre une photo, prendre une vidéo à l'insu d'une jeune femme, généralement.
Ça, c'est un vrai problème de société en Corée du Sud. Ça avait été notamment pris très au sérieux par les pouvoirs publics à une époque, avec des raids dans plein de magasins à la recherche de caméras cachées, dans les vestiaires, dans des cabines d'essayage. Ça avait fait les gros titres en Corée du Sud.
Il y avait eu des manifestations aussi de femmes qui étaient venues masquées en disant « mon corps n'est pas là pour être ton plaisir dans l'espace public ». Parce que c'est un fléau, en fait, le molka. C'est un fléau, c'est vraiment... Donc, on prend des photos, on prend des vidéos et on les met en ligne sur des sites porno derrière, bien sûr, sans le consentement et sans même que les jeunes femmes s'en aperçoivent. Donc, les membres du groupe du Burning Sun s'échangeaient donc ces molka sur cette application. Et donc, ce qui a fait vraiment scandale, c'est qu'effectivement, Seungri est impliqué, mais aussi d'autres
garçons musiciens très connus,
de l'entertainment coréen, dont on va en citer quelques-uns. On a le rappeur Youngjun Young, qui fait partie du groupe Highlight, qui avant s'appelait le groupe Beast, qui était très 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 connu. Le chanteur Jung Jung-hyun, donc lui, c'était le guitariste du groupe Drug Restaurant. Donc,
oui, ça ne s'invente pas.
Voilà. et lui a vraiment été mis en cause très fortement, parce que en gros, c'était lui qui organisait tout. Lui, il avait plus de 15 groupes de messages sur KakaoTalk où il envoyait des trucs.
Ce genre de choses, ouais.
Il faisait des blagues, ça le faisait rire. Il avait, entre 2015 et 2016, il a envoyé à peu près des molka de 10 femmes différentes, dont certaines qui étaient ses petites amies, en fait. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très malsain. Il y a aussi le leader du groupe CNBLUE, Lee Jong-yeon, le guitariste du groupe FT Island. Donc CNBLUE et FT Island, c'est vraiment deux groupes très très connus.
Ouais.
Et aussi, surtout, Yo In-seok, qui est le PDG de Yuri Holdings. Alors comme ça, ça a l'air de rien vouloir dire, mais Yuri Holdings, c'est l'entreprise qu'a cofondé Seungri avec donc Yo In-seok. Et c'est en gros cette entreprise qu'ils utilisaient pour tous leurs investissements, dont le Burning Sun, mais plein d'autres investissements.
Plein d'autres choses.
C'était là où ils regroupaient tout leur argent. Donc voilà. Donc il y a aussi des gens du staff du Burning Sun, des gens de l'agence de Seungri qui s'appelle YG Entertainment, des hommes d'affaires très connus, pas seulement coréens, qui sont mis en cause dans cette affaire de molka.
Et derrière, donc dans la suite de l'enquête, après les molka, on découvre de plus en plus de choses autour de l'affaire de Burning Sun, avec des détails qui sont absolument épouvantables.
Ouais. Donc on découvre vraiment des trucs horribles. Le 23 avril, la chaîne MBC révèle notamment qu'il existe une salle, une pièce au-dessus du Burning Sun où on amène les victimes en fait qui sont droguées, qui sont inconscientes, on les attache et en fait là à partir de là les ce qu'on appelle les VVIP, donc c'est au-dessus des VIP.
Très haute personnalité.
Voilà, donc c'est des hommes d'affaires très puissants, des choses comme ça, sont amenés dans ces pièces et ils s'adonnent aux viols, aux agressions, elles sont même battues. Et une fois que tout ça est fini, on a une équipe d'incinération qui est affectée pour nettoyer les traces de drogue et les traces de sang après les soirées. Et notamment aussi, on transfuse les victimes avant qu'elles se réveillent, on les transfuse ou alors des fois elles sont à moitié inconscientes. On leur redonne du sang pour ensuite voilà, les remettre un peu sur pied et les filmer. Enfin, c'est très très grave, oui. Sachant qu'en plus, il y avait des mineurs qui étaient aussi des jeunes femmes mineures, parce que en fait, Burning Sun pratiquait la technique du high pass, c'est-à-dire qu'il laissait rentrer les jeunes femmes sans contrôler, alors qu'il savait bien qu'il y avait des mineurs qu'on allait chercher. Donc en fait, des mineurs étaient impliqués aussi dans cette affaire. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Quelles conséquences ça a eu, toutes ces révélations, pour toutes ces personnes qu'on a citées? Qu'est-ce qu'il y a eu comme type de sanctions potentiellement prise? Alors, ça a eu un très fort retentissement. Il y a eu des manifestations dans la rue, des groupes qui sont descendus en disant c'est scandaleux. Il y avait déjà le contexte de MeToo un petit peu en Corée qui était depuis fin 2018 qui commence à émerger. Et là, ça a redonné un coup de fouet à ça. Donc, en pratique, Seungri, sa carrière est terminée. Ouais. Il s'est retiré de l'entertainment. Ouais. Il a dit, au début, il a nié. Il a dit non, c'est pas vrai. Puis après, quand les preuves sont sorties, il s'est retiré de l'entertainment et il a dit j'arrête tout. Et tous les hommes qu'on a cités, donc
que ce soit les musiciens ou les hommes d'affaires,
En tout cas, les musiciens, ils sont plus dans l'entertainment. D'accord. Ils sont partis, les agences les ont virés, leurs contrats publicitaires ou autres ont été annulés, et ils ont annoncé leur retrait de la vie publique. Et ils sont aussi également poursuivis par la justice. Oui. Alors, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à savoir qui a fait quoi et sur quel motif on peut arrêter qui. Et je sais que, par exemple, Seungri, il a été accusé d'incitation à la prostitution, d'accord, mais aussi de détournement de fonds.
Parce qu'il y a tout ce volet corruption et tout ce volet financier dont
exactement.
On parlait.
Il y a aussi des policiers qui ont été démis de leurs fonctions et poursuivis.
C'est quoi les derniers développements récemment de l'affaire Burning Sun? Parce qu'elle continue, cette affaire, elle est loin d'être terminée, justement, notamment du fait de la complexité et de la difficulté de savoir exactement qui a fait quoi.
Et ben, alors là, aujourd'hui, notamment Seungri et son associé sont accusés de détournement à hauteur de 400 000 euros et d'infraction, alors voilà, en gros, mais surtout, Seungri, il est accusé d'avoir des comptes suspects, c'est-à-dire qu'il y avait des comptes qui recevaient de l'argent du Burning Sun. Au début, il disait c'était pas moi, mais en fait, c'était lui. Il avait cinq comptes qui n'étaient pas à son nom.
Dissimulés,
où il recevait de l'argent. Donc, les derniers développements, c'est qu'en fait, c'est compliqué pour lui. on a aussi le YG, donc Yang Yeon-suk, qui est le CEO de YG Entertainment, donc vraiment l'agence de Big Bang. En fait, on est en train de se rendre compte qu'il était potentiellement aussi impliqué, qui savait très bien ce qui se passait. Il y a aussi des nouveaux noms qui sortent, notamment celui de l'homme d'affaires malaisien Lo Taek Jo, qui lui, en fait, aurait eu recours à des prostituées en 2014 par l'intermédiaire de YG. Et donc lui, il est un peu bizarre, j'aime bien le mentionner parce que c'est quelqu'un qui est fasciné par les célébrités, il était ami avec Leonardo DiCaprio, il lui aurait envoyé des Basquiat, des Picasso, et il avait offert 8 millions de bijoux à Miranda Kerr, la mannequin, avec qui il est sorti pendant plusieurs années. Il faut savoir que Leonardo DiCaprio et Miranda Kerr ont été obligés de tout rendre à la justice coréenne. Donc c'est assez intéressant. Kim Sang-kyo, qui est le donneur d'alerte, lui, il est sous surveillance policière constante autour de chez lui 24h/24 parce qu'il y a eu des tentatives, en fait, d'agression.
Et des menaces de mort.
Et des menaces de mort sur lui.
Énormément.
Et ce qui est intéressant aussi comme conséquence, c'est que entre la fin février et la mi-mars 2019, les cinq grandes maisons de disques sud-coréennes ont perdu 17% de leur valeur à peu près. Donc les actions de YG ont chuté de 25% et il y a une très forte... En fait, on remet très fortement en cause le monde de la K-pop à cause de ça, parce que on avait déjà des scandales, mais là ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'imagine que du côté du public et de la réaction des fans, comme c'est quand même essentiellement basé là-dessus, on va dire le succès de la K-pop, ça doit être assez terrible. La perception des fans de K-pop en France, elle est comment? Parce qu'il y a toute une communauté aussi autour de ça en France.
Oui, tout à fait. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les fans, il y a différentes factions. C'est-à-dire que les fans coréens ne pensent pas nécessairement les mêmes choses que les fans à l'international.
Ouais.
Mais globalement, et là, c'est pour ça que pour une fois, c'est très marquant, c'est que généralement, il y a une tendance à défendre les idoles, dire oui, mais il n'a pas fait exprès,
à justifier
il ne savait pas.
Leurs actions. Ouais.
Voilà. Là, globalement, ils sont condamnés par tous les fans. Et en fait, on se pose beaucoup la question de savoir comment en fait on peut rendre ce milieu un peu plus sain et un peu plus juste. Parce que ce qui est très juste, c'est qu'il y a une avocate qui est porte-parole de l'association des avocates femmes en Corée qui a dit la K-pop, c'est une industrie qui est un boys club. Donc ça renvoie vraiment à ce...
Ouais.
En fait, c'est un domaine qui est contrôlé par les hommes, une industrie qui est vraiment verrouillée, et les femmes sont utilisées pour leur corps et sont exploitées. Donc, il y a vraiment quelque chose de malsain, et on essaye de voir ce qui est possible de faire pour changer ça.
Perso, j'attends maintenant l'adaptation en série de l'affaire Bernigsen. Gros potentiel, encore mieux que les Sopranos. Merci à Mélanie Vanga pour ses réponses. Mélanie, vous la retrouverez d'ailleurs dès demain aux commandes de Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.